Ne laissez personne derrière. Cette série est un projet de la House of African Feminisms, la maison des féminismes africains, qui est elle-même un projet du Goethe Institut Afrique subsaharienne, où nous explorons l'intersectionnalité dans les féminismes africains. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir celle que je considère comme l'une de mes inspirations, Axel Dia Ndjike. Tu es podcasteuse, tu es aussi documentariste, tu es dramaturge, tu es auteur. My God. On va parler de journal intime d'une féministe noire en parenthèse. Donc, je pense que c'est le journal intime de toute féministe. Mais parlons de cette identité en tant que féministe païenne. Tu la revendiques énormément. Elle est partout. Qu'est-ce que ça veut dire d'être féministe païenne et pourquoi c'est cette identité-là que tu revendiques vraiment, vraiment beaucoup?
Alors, le païen, c'est pour appuyer le fait que le féminisme, qui est en tout cas le mien, s'inscrit dans la chair, s'inscrit dans le corps, s'inscrit dans la sexualité, s'inscrit dans l'incarnation, et il résulte en grande partie de l'histoire de ma mère et de l'histoire de sa mère avant elle. Et il affirme une importance du sexuel et de l'intime au cœur même déjà de mon récit de vie et, je pense, au cœur du féminisme. Et revendiquer ce paganisme-là, c'est revenir aussi à cet endroit-là où il était question de spiritualité, de communion avec l'environnement et du sacré au cœur même du sexe des femmes, quoi. Donc voilà.
C'est la première fois que je lis journal intime d'une féministe noire. Je me dis, ah, tous les manifestes n'ont pas dans leur titre manifeste. Je l'ai vraiment pris comme un manifeste. Je veux savoir qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre, en fait. Tu vois, parce qu'il est, en même temps, il n'est pas violent dans le sens, on parlait de honte, de sacré, mais tu commences avec 69, tu vois, tes relations
Et en
intimes,
fait, pour les
amoureuses,
gens
non
qui n'ont
amoureuses.
pas lu l'ouvrage, en fait, qui est le décompte de ma vie affective, relationnelle et sexuelle, en fait, de tous les partenaires que j'ai eus. Et le chiffre s'avère être 69. Voilà.
Parlant de honte tout à l'heure, nous les femmes, quel que soit notre âge, on ne devrait pas aller au-delà de 3.
Il
Donc, tu
paraît.
parles de ça. Le deuxième chapitre, c'est la masturbation. Cette première fois où, et c'est un axe qui est très, très conscient, hein, et la manière dont tu le décris, je me suis dit, waouh! Donc, qu'est-ce qui fait que tu décides, on laisse la honte de côté si jamais il y a eu honte, en fait, pour écrire ce livre?
J'écris toujours ou je fais toujours des choses que moi j'aurais aimé trouver et que je ne vois pas, en fait. Je suis une grande lectrice, vraiment. Mon métier de rêve quand j'étais petite, c'était être libraire, en fait. Et mon rêve, c'était de me retrouver enfermée dans une très grande librairie toutes les nuits et pouvoir lire tous les bouquins qui étaient là. Donc, c'est pour dire à quel point la lecture est prégnante dans mon existence. Et ayant justement beaucoup lu, je restais un peu sur ma faim, sur ces sujets-là. Et je me disais, mais putain, mais pourquoi personne n'y va, franco? Il faut remercier Toni Morrison, qui a dit que s'il y avait un livre qu'on souhaitait lire qui n'existait pas, et ben, c'était à nous de l'écrire. J'ai juste écrit le bouquin que j'aurais aimé lire sur tous ces sujets-là. Et le 69, par exemple, qui est en ouverture du livre, ma manière à moi de régler mes comptes avec cette histoire de ce qu'on appelle le body count, et c'est ce dont tu parles, cette espèce de différence qu'il y a entre, si tu veux passer pour une meuf bien, il faut pas dire que tu as eu trop de partenaires. Et par contre, les hommes, bah en fait, plus ils en ont et plus ils sont valorisés.
Et donc on fait le body count et puis le deuxième chapitre c'est Béni sois-tu mon Dieu de m'avoir faite femme.
Absolument.
Ou pour la première fois, en fait, tu vas au bout de la masturbation et là, tu dis, je comprends l'omerta qui frappe cette pratique dès qu'il s'agit de nous, les femmes. Parlons de cet omerta, en fait. Qu'est-ce que tu as découvert qu'on ne veut pas qu'on découvre?
L'autosuffisance, peut-être. L'autosuffisance, à quel point notre corps est paramétré pour le plaisir et que pour le plaisir. Il faut quand même rappeler que le clitoris ne sert à rien d'autre que ça. Et en fait, la puissance aussi qui se dégage de la jouissance. Je suis très mystique, mais il y a quelque chose de l'ordre du cosmique dans ce que je ressens moi à ce moment-là. Et j'ai l'impression de faire un avec tout. J'ai certes, oui, pris beaucoup de plaisir, mais je n'avais peut-être pas mesuré à quel point j'étais paramétrée pour ça et que je dispose dans mon corps d'un endroit, d'un outil qui ne sert qu'à ça, quoi. D'un coup, je regarde un peu le monde autrement en me disant qu'on ne serait peut-être pas les mêmes individus si on
été toutes conscientes de ça. On serait davantage des sujets, puisque c'est à nous d'accueillir dans notre jouissance le partenaire ou la partenaire qu'on choisit, et non pas d'attendre de la part de ce partenaire, de cette partenaire, de nous faire jouir. On n'est pas tout à fait au même endroit. La posture n'est pas la même.
Et j'adore l'idée de l'autosuffisance. Moi, je serai toujours, toujours reconnaissante à mon père. C'est lui qui m'a dit la première fois, mais masturbe-toi. J'avais 11 ans, je venais d'avoir mes règles, et il me dit, mais écoute, ça c'est la première des choses que tu dois apprendre à faire avant même de chercher quelqu'un,
tu
quoi,
vois.
Tu vois, dehors.
Tu vois, nous, on a eu des pères féministes, ça change beaucoup de choses aussi.
Mm-hmm.
Moi, le mien, il me disait qu'il espérait que j'avais hérité de la même joie pour les choses de la chair que ma mère.
Voilà.
C'est particulier, ça.
Oui.
Moi, j'avais pas 11 ans, j'en avais 27 quand il me dit ça. Et on a fait connaissance très peu de temps avant, en fait. Parce que voilà, je raconte l'histoire, voilà, il y a un secret de famille et un mystère des origines me concernant au départ. Et du coup, je fais la connaissance de mon vrai père, j'ai 27 ans. Et c'est une des premières lettres qu'il m'écrit à propos de ma mère, pour me parler de ma mère, en me disant, j'espère, je te souhaite d'avoir hérité ça d'elle. Ça donne quand même la permission pour plein de choses, en fait, derrière.
Oui, voilà, cette question de permission, en fait. Et cette question de se mettre en tant que femme au centre de sa vie.
Ouais.
Toi, tu le réussis assez bien. Tu choisis d'avoir un enfant. Tu choisis quand tu auras cet enfant. Tu choisis le prénom que tu donneras à cet enfant. Et tu choisis de ne pas avoir un partenaire violent, par exemple, parce que tu as vu le fils de ta mère être violent.
Je pense que se mettre au centre de sa vie, c'est se raconter à soi-même déjà une histoire dont on est la propre héroïne. Et moi, ce truc-là, j'ai eu très vite. Et je pense que ça vient de la lecture. C'est beaucoup dû à ça. Puisque dans ce que tu lis quand tu es jeune, bah, y a des héroïnes, en fait, et tu fais un transfert. Donc, moi, je construisais sans arrêt la personne que je voulais être. Et la lecture a considérablement œuvré à ça. Et je pense que c'est pour ça que ça allait de soi, pour moi, et que c'était important d'avoir une réflexion sur la parentalité avant même d'être parent. Je me suis intéressée à plein de questions sur l'enfance et sur le développement de l'enfant avant moi-même de devenir mère, mais je me suis intéressée à ces questions-là parce que j'étais moi-même une enfant et que j'étais dans un foyer où j'avais pas le droit d'exister, en fait. Et je suis assez naturellement allée chercher des livres où je m'en demandais s'il était possible de faire autrement et si tous les adultes éduquaient les enfants comme ça. Placé sous le signe de la domination, en fait. C'est la première des dominations, c'est celle des grands sur les petits, en fait. Et ce truc-là, tu l'apprends dans la maison. J'étais très, très surprise par la brutalité, en fait, de mon tuteur et cette façon il semblait penser, mais beaucoup de parents, beaucoup d'adultes pensent ça, ils agissent comme si on n'allait pas grandir, comme si on n'allait pas devenir un jour grand, en fait, adulte. Mais en fait, on ne reste pas comme ça. On grandit et on les regarde avec des yeux conscients de ce qui s'est passé, quand même. Et je suis partie à 17 ans, en fait. Je me suis enfuie. Quand moi, à mon tour, je suis devenue mère, je n'ai jamais oublié ce truc-là. J'ai très vite eu une idée du genre de parent que je voulais être. Je savais ce que je ne ferais pas à ma fille, en fait. Et non seulement je savais ce que je ne ferais pas, mais surtout j'avais une idée très précise de ce que j'avais envie de faire, en fait, avec elle. J'étais pas juste dans la réaction. Il y avait des choses où j'étais genre, oh, et ce serait trop chouette de pouvoir partager ça avec mon enfant, que je sois pas la personne qui endommage cet être génial que, a priori, elle avait l'air d'être et qu'elle est. Et ma mission à moi, c'était celle-là. C'était pas autre chose, quoi. Et moi, les livres ont permis de ne pas ressortir trop endommagée de ce qui s'était passé dans la maison.
Mais Les livres t'ont sauvé, en fait.
Moi, les livres, moi, vraiment, c'est pas une blague, quoi. Donc, non, sans ça, je serais même pas devant vous pour avoir une conversation comme ça. L'histoire aurait été très différente.
Je pense que tu as eu un petit fantasme où tu voulais avoir non seulement la librairie, mais dormir dans une librairie ou je sais pas, quelque chose.
Ah oui, oui, oui. La librairie, elle est toujours là. Hein. T'inquiète. D'où mon admiration pour ce que tu fais. Voilà, la librairie et un peu de jalousie. La librairie est toujours là. T'inquiète.
Alors, ce livre est non seulement dédié à ta fille Margot, merci de m'avoir choisi comme maman, j'adore vraiment ce que tu dis, à tes parents aussi, mais aussi à tes aïeux, grâce auxquels tu dis je suis libre d'aller et venir, lire, écrire, choisir et jouir. Ouais, ça vraiment, je l'intitule la politique de l'intime. Tu ne te laisses pas être mise dans un moule par des gens, parce que ton histoire, l'histoire de tes aïeux est tellement vaste, plus vaste que la somme de ses préjugés. Et je veux parler de cette politique de l'intime-là et de la question de la transmission, en fait.
C'est très important à partir d'où tu décides que l'histoire doit être écrite. Où tu veux, où tu laisses l'histoire être écrite par les autres, ou c'est toi qui détermine où elle débute. Moi, mon histoire, par exemple, elle ne commence pas avec la fille sur le canapé. J'aurais pu choisir de commencer le récit par le viol que j'ai subi moi quand j'avais 11 ans. Mais c'est pas là qu'elle commence mon histoire. Mon histoire, elle est bien plus vaste que ça. Mon histoire, elle commence avec l'histoire de mes parents et cet amour qu'ils ont éprouvé l'un pour l'autre et la raison pour laquelle ils n'ont pas pu vivre ensemble, mais qui les a emmenés quand même à me concevoir. Mon histoire, elle commence avec cette étiquette de bâtarde. Mon histoire, elle commence avec l'impossibilité pour eux de vivre ensemble. Ce qui s'est passé sur le canapé est un épisode de cette histoire. Ça fait partie de l'effroyable qui peut survenir dans la vie d'une femme, mais fort heureusement, je suis aussi la fille de mes parents et c'est peut-être l'identité la plus importante que j'ai. Parce que être conçue, savoir que t'es le fruit de l'amour et pas de la biologie, c'est colossal pour avancer dans la vie. Je suis la mère que j'ai choisi de devenir de Margot et je suis aussi cette amante, cette copine, enfin voilà, je suis plein d'autres identités et je trouvais ça vraiment important d'établir que la narration, elle commence toujours là où vous décidez qu'elle commence. Ne laissez pas les autres vous en imposer une. Et ensuite, tout l'aspect de la transmission, il résulte aussi du fait que cette histoire de violence sexuelle, elle s'inscrivait dans un récit familial. Ce que moi, j'ignorais au moment où ça m'arrive, ce que je ne sais pas, c'est que, en fait, toutes les femmes de ma famille ont été mariées contre leur gré dans les âges que moi, j'avais, notamment ma mère à 12 ans, et qu'aucune d'entre elles, jusqu'à moi, enfin, moi, je ne fais que perpétuer la tradition. Aucune d'entre nous ne sommes rentrées de notre propre gré dans une existence sexuelle. Donc, je ne fais, même si ma mère m'a envoyée à 3 000 km, en étant certaine de me préserver de ce sort-là, en fait, malheureusement, non, ça n'a pas suffi. Ça s'est quand même perpétué à cet endroit-là. Et quand moi, je découvre cette histoire à propos de ma mère que je ne connais pas, je ne sais pas qu'elle a été mariée de force quand elle avait 12 ans, qu'elle est devenue mère à 14 et puis à 16 ans, et que mes deux frères aînés sont les fruits de ce premier lit. Et elle rencontre à 27 ans mon père, dont elle tombe éperdument amoureuse. Et c'est mon père qui lui demande de faire un enfant ensemble et qui veut une fille. Il lui précise, il veut une fille.
Ah, d'accord.
Voilà, il veut pas de garçon, il veut une fille. Une fille dont il a choisi le prénom depuis le collège. Il attend sa fille et c'est exactement le prénom que je porte. Donc, moi, quand je redécouvre ce côté solaire-là de l'histoire, d'un coup, la manière dont je vais le traduire va devenir complètement différente. Et c'est pour ça aussi que la question de l'intime et de la sexualité revêt une telle importance pour moi, parce que à partir de moi, prend fin la manière dont on devient femme dans cette famille. Et parce que moi, je prends conscience de ça et que je suis en mesure d'y faire face et d'appeler un chat à un chat, ben, j'ai permis, moi, à ma fille, de faire son entrée dans la sexualité en ces termes. C'est la première de notre lignée à avoir choisi l'heure, le temps, la personne, le... C'était la première. Et ça, mais c'est une fierté pour moi de me dire, OK, ça, c'est un truc putain de tangible. Vous pouvez me parler de tout ce que vous voulez en matière de discours féministe. Dans les faits, ça s'incarne comment? Ben, moi, je peux vous regarder en disant, ben voilà, moi, voici comment ça s'incarne pour ma fille. Voici comment ça s'est arrêté pour moi et voici quelle forme, quelle incarnation ça revêt pour ma propre enfant.
Tu dis dans le livre, je regarde le féminisme en y cherchant la place des mères, la place faite à leur corps, voix, enfance et histoire. À leur histoire avant qu'elles ne deviennent nos mères, leurs histoires de femmes. Car c'est bien souvent par la femme que l'origine s'écrit. Et puis, plus loin, tu ne vois pas en fait cette
Non,
présence.
elles sont pas là. Et pourtant, ce sont les êtres les plus subversifs qui puissent exister, parce que à partir de la mère, en fait, c'est elles qui sont aux manettes de l'éducation. Donc, si elles ont envie de rendre leur fille libre, comment te dire que ça pourrait changer un peu la face du monde? Mais comme elles sont elles-mêmes conditionnées par le patriarcat en tant que femmes et elles perpétuent à leur tour, souvent sans le vouloir, des choses qui les ont elles-mêmes enfermées, ben en fait, on est en train de répéter à l'infini quelque chose qui nous fait souffrir. Et mon vœu avec ce chapitre-là, qui est le dernier, qui est l'épilogue, en fait, que j'ai appelé l'origine du monde, si je parviens à mettre une petite graine dans la tête des gens en se disant, ah, peut-être qu'il faudrait balayer devant notre porte et peut-être qu'à la mesure déjà, à l'échelle l'échelle de nos rapports entre mère et fille, il y a peut-être une révolution à faire, ben, je serais contente d'avoir permis ça. Parce que je pense vraiment qu'à cet endroit-là, il y a un nœud à défaire. C'est Alice Walker qui dit ça, l'autrice de La couleur pourpre. Elle dit que la manière la plus certaine de déposséder les gens du pouvoir, c'est de leur faire croire qu'ils n'en ont aucun. En fait, on a du pouvoir. On a déjà du pouvoir au sein même de nos familles, au sein même de nos propres récits. Mais qu'est-ce qu'on connaît des récits de vie de nos mères? Je pense que c'est une des plus grandes réussites du patriarcat, ça, d'avoir réussi à diviser, à séparer en tout cas les mères et les filles, et qu'on ne comprenne pas que nos mères sont des êtres sexués et qu'elles ont été des filles et des femmes avant de devenir nos mères, et que même quand elles sont nos mères, elles restent ces êtres sexués-là. Ça peut concourir au fait que nous, on ne parvienne pas non plus à ancrer notre propre sexualité, notre propre féminité, et que le féminin soit aussi mal considéré à travers la planète entière, en fait. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de traduire dans ce passage-là.
Cette conversation est intitulée « Ne laisser personne derrière ». On le voit en lisant l'épilogue « L'origine du monde » qu'on a laissé nos mères derrière.
Oui, alors qu'il n'y a rien de plus vaste qu'une mère. Et je ne suis pas dans un des discours naturalistes en disant que si tu n'es pas mère, tu n'es pas puissante et tu n'es pas une vraie femme. Et c'est
pas des mères biologiques. Hein.
Voilà. Pareil, tu vois, ça aussi, c'est quelque chose qui appartient à nos cultures et qui aurait besoin d'être dans les féminismes globales, en fait, qui existent aujourd'hui. Il y a des choses qui enrichiraient grandement la conversation. qui tourne en rond. Moi, sur l'origine du monde, c'est pas hasard que la phrase en exergue du début, ce soit une phrase de Simone de Beauvoir. On peut lire cette phrase.
Voir le sexe de ma mère, ça m'avait fait un choc. Aucun corps n'existait moins pour moi, n'existait davantage. Donc Simone de Beauvoir, une mort très douce.
Donc on part déjà du principe qu'on est dans un féminisme où le corps n'existe pas, et en l'occurrence le corps de la mère n'existe pas. Si nous, leurs filles, pour nous, leur corps n'existe pas, à quel moment vous pensez que la société, le patriarcat, va vouloir de nos corps à nous? Enfin, sérieux. Sans déconner, il faudrait peut-être incarner un peu les choses. Voilà, moi, c'était ça. C'était mon propos, c'était celui-là. Genre, venez, on parle d'incarnation, et nous appartenons à des cultures où on sait ce que ça veut dire, ça. On sait particulier, c'est au centre de nos cultures. Et c'est quelque chose qu'il faut ramener à l'avant, parce que ça a été notamment dénigré par la colonisation et ce rapport à l'intellect que pouvait avoir l'Occident. Et en fait, on s'est retrouvé avec des gens qui étaient totalement coupés de leur corps, et ou en tout cas qui avaient un problème avec le corps d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, on voit revenir toutes ces questions corporelles. Elles sont au centre. Oui. Parce que leurs filles, leurs petites filles, reviennent à des trucs en disant « Mais attendez, on va peut-être recommencer sur la base, non ? Peut-être qu'on pourrait juste parler, bah, je sais pas, de nos règles, d'endométriose, du fait qu'on a mal, et que voilà, et de nos fluides, et de notre plaisir, et de notre vagin, et de notre utérus. » Et elles sont en train de ramener ça. Parce qu'on a sauté une putain d'étape, quoi. Enfin, moi, il me semble qu'on a sauté une putain d'étape.
On a eu honte, en fait.
On a joué le jeu du patriarcat, mais en sachant que ben, on est le patriarcat, en fait. Et c'est parce qu'on est le patriarcat qu'on peut aussi le démanteler. Le patriarcat, c'est pas un truc qui nous tombe dessus. Nous sommes partie prenante de tout ça. Si notre discours change déjà à l'échelle de nos familles, à l'échelle de nos cercles féminins sur nos corps et sur nos fluides et sur tout ce qui fait le féminin, il y a de fortes chances que ça se répercute dans la société de manière globale, en fait. Mais commençons déjà par balayer devant notre porte. Comment est-ce qu'on parle du féminin au sein même de nos familles? Comment ça s'incarne? Et pour ça, quels sont les récits de nos mères? D'où elles viennent? Qu'est-ce qu'elles nous transmettent? Pourquoi est-ce qu'elles nous autorisent à avoir certains gestes et pas d'autres? Qui leur a appris ça? Pourquoi? Toute cette réflexion-là, elle a posé, elle a à faire. On en a urgemment besoin. Donc les mères, elles sont mais au centre de l'histoire.
J'étais déjà mère quand j'ai lu ce livre. Quand j'ai lu cette partie « Investir notre qualité de sujet pour ne pas condamner nos filles à être simples objets de désir », appréhendant le jour où elles seront comme nous des femmes et se demandant s'il n'aurait pas mieux valu n'être jamais née. On a cette fille qui est petite, Et on se dit, mais on a peur du moment où ça sera l'adolescence, où on ne pourra plus la contrôler, on a peur de ce qu'il pourrait lui arriver. Et donc, quand moi j'ai lu ça, je me dis, ah, mais oui. Et c'est là que je commence, en fait, la conversation avec ma mère. Et sur les autres femmes de ma famille, sur mes grands-mères, sur ma grand-tante, à comment est-ce qu'elles ont vécu leur sexualité. Et tu apprends des histoires, mais tu te dis, ah, d'accord, mais je me comprends mieux, et je me connais mieux, je m'accepte mieux, en fait. Mais c'était.
Et tu vois, tu as dit un mot vachement important. Tu as dit comment est-ce que je vais, comment on va faire pour la contrôler. Mais en fait, c'est pas nous qui devons faire l'objet d'un contrôle. C'est pas notre comportement qui est problématique. Ce
Exactement.
sont les fils en face, les fils de ces autres. Face à l'expression du désir et à l'expression du plaisir féminin et à l'expression de femme en tant que sujet. La question,
Oui.
elle est dans ce sens-là. C'est pas nos filles qui font quelque chose de mal, en fait. Et c'est important d'avoir ces conversations à propos des mères parce que elles deviennent aussi les mères des fils dont on parle,
Exactement.
qui deviennent nos compagnons pour celles d'entre nous qui sommes dans des relations hétérosexuelles. Mais en fait, tout ça est lié. Comment est-ce que la mère ne pourrait pas être l'origine de tout, en fait? Si tu éduques bien les filles, si tu éduques les filles pour leur permettre d'être des femmes libres, tu feras des mères, mais époustouflantes derrière. Et qui feront à leur tour des fils qui laisseront la place et qui se sentiront pas en danger face à des femmes qui sont éblouissantes, en fait. Tout ça se tient.
Violaine qui écrit, on a beaucoup parlé du rôle de mère, composante clé de la vie de la majorité des femmes. Peut-on élargir au droit aussi de ne pas être mère? On tend à nous reconnaître
Oui,
peu de valeur dans ce cas.
je suis absolument d'accord, Violaine. Je l'ai dit tout à l'heure, je parle de ce rôle-là pas pour mettre l'emphase sur le fait qu'on ne serait une femme digne de ce nom que si on devient mère, mais pour rappeler la puissance qu'il y a aussi dans ce rôle-là. Et on peut être mère de plein de façons, en fait. C'est pas juste donner naissance à un enfant. À partir du moment où vous contribuez à ce monde d'une manière ou d'une autre, vous êtes dans ce rôle d'apporter et d'engendrer quelque chose qui enrichit tout le monde.
Nous terminons la conversation ici et puis on se dit à très très bientôt.
Avec plaisir.
Merci beaucoup
Merci
d'avoir été avec
beaucoup à
nous.
toutes les personnes qui étaient présentes. Merci, merci.